rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne, l'émission où nous parlons des œuvres que nous aimons et que nous vous recommandons chaudement. Aujourd'hui, il s'agira de romans avec L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, La Manche de Max de Paz et La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart. Nous parlerons également philosophie et cinéma avec un essai édifiant Star Wars, la philo contre-attaque de Gilles Verviche. Puis nous présenterons un film bien trop méconnu sur la branche de Marie-Garel Weiss. Toutes ces œuvres, vous pouvez bien sûr les emprunter ou les réserver dans nos bibliothèques. Et tout de suite, place au romanesque et à la peinture, avec le 9e roman de Camille de Peretti, L'inconnu du portrait. Camille de Peretti, pour ce roman, est partie d'un article du Guardian qui parlait d'une toile de Klimt, la Jouvencelle. Elle a été peinte en 1910, ensuite perdue, retrouvée et repeinte en 1916, puis volée et réapparue. C'est une étudiante en histoire de l'art qui, en 1997, a fait le lien entre les deux tableaux après l'avoir passé au rayon X. La Jouvencelle a ainsi été repeinte et est devenue le portrait d'une dame. La tête du modèle a été dénudée et les épaules recouvertes d'un châle. On suppose que le peintre était tombé amoureux fou d'une jeune femme et lorsqu'elle est morte en 1917, il aurait modifié son portrait pour ne plus souffrir de l'avoir sous les yeux. Après cette révélation, le musée de Plaisance avait organisé une exposition en son honneur et c'est alors que l'œuvre a de nouveau été volée. Et 19 ans après, en 2020, elle est réapparue, comme par enchantement, dans une trappe au pied du mur du musée. Il y a donc beaucoup de mystères autour de ce tableau à la destinée incroyable qui ont inspiré Camille de Peretti pour ce roman. Elle nous entraîne dans une saga et une enquête palpitante pour comprendre qui était cette Jouvencelle transformée en dame si convoitée et dévoiler celle qui se cache dans ce tableau énigmatique, au potentiel romanesque énorme, puisqu'on aura des secrets de famille, de transmission, des amours grandioses qui traversent les générations. C'est une fresque qui s'étale sur 120 ans, entre Vienne dans les années 1910, l'Italie des années 20, la Grande Dépression aux États-Unis, New York aujourd'hui. Le récit est construit comme un puzzle de plusieurs temporalités dont les pièces viennent s'emboîter. On y fera connaissance d'une galerie de personnages au caractère subtil, tellement bien campés qu'ils sont attachants, dont Isidore, qui a 19 ans en 1928 à Wall Street, amoureux de la belle Lotte, fille d'un richissime industriel. Il s'intéresse à la bourse, il va spéculer et son destin sera incroyable. C'est très romanesque et vivant, tout en maintenant un suspense constant. On prend un grand plaisir à suivre les aventures de ces personnages flamboyants. Il m'a même été difficile de quitter ce roman sans un petit pincement au cœur, tant il était réussi. Changement de registre et de décor maintenant, avec un essai sur Star Wars et sa dimension philosophique, c'est le choix d'Aurore.
Merci Anne. Alors moi j'ai juste une petite question, du coup c'était l'histoire du tableau, c'est une histoire vraie.
Exactement.
Et
elle a brodé et imaginé, puis enquêté quand même beaucoup.
Oui, beaucoup de recherches.
Mais, ouais. Mais les dates sur le tableau, toute l'histoire du tableau, c'est des faits historiques avérés.
Waouh, je suis admirative.
Ouais.
Ça a l'air super palpitant, comme tu disais. Et oui, effectivement, là, on va être sur un autre registre. Alors, tout le monde le sait déjà, les fans encore mieux que les autres. La saga créée par George Lucas au début des années 70 fait partie maintenant des mythes modernes. Star Wars ne mourra jamais. Non pas parce que la saga a été rachetée par Disney en 2012, quoique cela puisse contribuer à son immortalité commerciale. Star Wars est immortel car la saga, ses personnages, les valeurs qu'elle véhicule et son histoire, aussi familière qu'universelle, sont passées au rang de mythe. Donc comme tout grand classique, Star Wars peut donc être épluché, décrypté et vulgarisé. Gilles Verviche, l'auteur, est avant tout professeur de philosophie. Plutôt du genre que j'aurais bien aimé avoir au lycée d'ailleurs, au lieu de cette vieille bique que j'ai eue. Mais passons. Gilles Verviche est l'auteur de plusieurs ouvrages classés comme étant de la pop philosophie, c'est-à-dire qu'il cherche à rendre la philosophie accessible en abordant des sujets issus du quotidien ou de la pop culture comme Star Wars. Dans Star Wars, la philo contre-attaque, Gilles Verviche aborde un nombre incalculable de facettes du film pour les adapter à notre société, en faire des comparaisons et en tirer quelques leçons et réflexions, bien sûr, puisque c'est là tout l'objet de la philosophie. Nous faire réfléchir. existe-t-il un déterminisme dans les événements ? Existe-t-il une réelle liberté de l'homme ? La destinée d'Anakin est-elle préécrite ? Dans l'Empire contre-attaque, en interrompant sa formation de Jedi, Luke pense faire un acte délibéré, vraiment un acte de liberté individuelle, pour porter secours à ses amis. Mais ne provoque-t-il pas au contraire ce que le destin a programmé pour lui ? Autant de questions voilà, sur lesquelles on peut méditer et sur lesquelles Gilles Verviche essaie d'apporter une réponse philosophique, en tout cas. Et puis, il y a aussi d'autres questions. Par exemple, comment ne pas établir des connexions en philosophie politique avec l'agonie de la République, dont le ressort démocratique n'a plus aucune consistance, pétrifié dans des procédures suicidaires, instrumentalisé par la quête du pouvoir et le mercantilisme personnifié par la Fédération du commerce. Est-ce que ça résonne un petit peu avec des choses actuelles ?
Ça parle.
Et voilà. Le côté obscur de la force et son pendant lumineux ne sont-ils pas non plus trop manichéens ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela signifie au juste ? Bref, autant de questions auxquelles vous pensez avoir peut-être quelques bribes de réponses, ou pas. En tout cas, cet ouvrage est un bel outil de réflexion pour quiconque a envie d'ouvrir son esprit, à partager des sujets à partir de sujets connus, archi-connus même pour les fans du genre. Mais c'est astucieux, c'est ludique, c'est aussi instructif que divertissant, et ce n'est pas moi qui le dis, en l'occurrence c'est Sud Presse, parce qu'il a reçu aussi de nombreuses bonnes critiques. En tout cas, c'est un livre didactique, salué par la presse et les critiques en général, que je propose de lire absolument pour tous les Padawan philosophes. Et voici. On va faire une petite pause musicale, un petit morceau que tu nous as choisi, Anne.
Oui, Crazy Again de Gossip.
Allez.
Situations occur when romance is a blur. It happens all the time. Send me a savior. So spare me the words that I've already heard over a thousand times. Did I fall out of favor? 'Cause you know what I'm like. 'Cause you know what I'm like. And I might go crazy.
Vous écoutez le rendez-vous culture des bibliothèques. Nous venons d'écouter un extrait de l'album Wheel Power, sorti la semaine dernière et qui marque le grand retour de Gossip, le groupe de punk rock américain qui était séparé depuis 2016. Et la flamboyante Bess Dido chante tendrement le bonheur d'être amoureux et de se sentir en sécurité dans ce titre électropop teinté de piano galvanisant, Crazy Again. Je vais vous parler maintenant d'un roman français, La Manche de Max de Paz. C'est un premier roman de cet auteur de 21 ans. Il se glisse dans la peau d'un SDF, dans le 5e arrondissement de Paris, plus précisément place de la Contrescarpe. Le narrateur décrit cette vie qu'ont les gens qui ont froid et faim. Il nous raconte son quotidien, il nous présente ses copains de la rue, du quartier, comme son copain Philippe, le plus vieux de la bande, installé sur la bouche d'aération au pied du Panthéon, qui lit des livres, raison pour laquelle il est le favori des riches. Car comme il dit, c'est fou comme les gens choisissent leurs pauvres. Il parle de cet acte violent qui est de faire la manche, seul moyen de communiquer avec ceux qui vivent alors qu'eux survivent. Il nous fait ressentir la condition inhumaine de ces gens de la rue, ainsi que le regard de chacun. Il y a ceux qui font semblant de ne pas les voir, ceux qui ont mauvaise conscience et ceux qui témoignent de mépris. Il nous expose avec efficacité à cette malaisance éthique et morale. C'est très intéressant quand la littérature dérange, pour changer son point de vue sur le monde. Il nous amène à appréhender différemment ces individus sans toit, devant lesquels on passe régulièrement. C'est ce qu'on appelle un livre coup de poing, c'est fort, tranchant. Cet auteur si jeune fait preuve d'une maturité et d'une intelligence dans le propos et dans l'écriture absolument remarquable. Il sait aller à l'essentiel, sans fioritures. C'est une langue simple, orale, et qui sonne extrêmement juste. On n'est pas dans le cliché ni le misérabilisme. Il sait même être tendre et drôle. Il y a énormément d'humour, de légèreté et de poésie. Pour vous donner une idée du ton, je vous lis cette phrase. « On est des clochards et c'est comme ça. Pas besoin de se cacher derrière des mots plus tendres comme SDF ou sans-abri. » L'auteur introduit même du romantisme dans son roman. Le héros va faire une rencontre. Une jeune fille, Élise, solitaire, qui écrit des poésies, des mots qui vont réveiller chez lui un peu de tendresse, sentiment qu'il croyait avoir perdu et qui va lui donner envie de se révolter et conduire ainsi le récit à une fin en apothéose. Il faut préciser que Max de Paz n'est pas SDF lui-même, puisqu'il est actuellement à l'UNS et prépare l'agrégation de philosophie. Mais il doit bien connaître la réalité de la rue pour en parler aussi bien. J'ai vraiment été éblouie par ce roman, par ces personnages si vivants. Il leur donne une dignité et explique admirablement le passage, ce moment où son personnage a renoncé, alors qu'il s'efforçait de rester à la verticale, assis dans l'abribus, sous le banc public, pour donner l'illusion, il se résout à s'allonger sur le bitume, et ça y est, il fait partie des gens de la rue. Et c'est à lire absolument.
Sur le coup, quand tu as dit la Manche, je pensais à...
Au département.
Oui.
Ouais, exactement. Alors, samedi, au rendez-vous culture en présentiel, je l'ai précisé que c'était pas, ça parlait pas de la Manche du département.
Non, mais après, on a compris tout de suite.
Ouais.
Je me suis dit, ah, d'accord.
Mais c'est vraiment un roman très court, qui se lit très vite et qui ne s'oublie pas. Vraiment important pour moi.
Roman coup de poing, comme tu as dit.
Ouais. Et à présent, Aurore, bah, tu vas nous livrer ton coup de cœur. Et c'est un roman historique qui bouleverse.
Oui. C'est bouleversant. La sage-femme d'Auschwitz, donc de Anna Stuart. En fait, dans ce livre, l'autrice Anna Stuart mêle avec talent le roman historique à l'émotion pure. Alors, j'ai eu ma période où je lisais beaucoup de romans autour de la Seconde Guerre mondiale, biographiques d'ailleurs pour la plupart. J'avoue que ça m'était un peu passé. Et puis, il y a eu cette lectrice avec qui j'ai discuté à la bibliothèque.
C'est l'avantage de ce métier, on rencontre plein de gens qui lisent et c'est passionnant.
Ouais, mais il y a plein de choses que j'emprunte parce que je les vois revenir en fait. Enfin, je tiens, oh là, tiens, la couverture, ceci, cela. Et puis là, je vois le titre quand même un petit peu choc, déjà, la sage-femme d'Auschwitz. Et puis du coup, je lui demande ce qu'elle en a pensé, cette lectrice, qui venait de rendre ce livre. Et puis je sais qu'elle ne le rend pas... parce qu'elle n'a pas eu le temps de le lire, elle le rend et elle l'a lu, je sais qu'elle vient souvent, elle prend souvent des livres. Et elle m'a dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai l'habitude de lire de la fiction. Très thriller, parfois stressant, mais voilà, ça reste de la fiction. Alors, je peux prendre de la distance, pas me laisser envahir par les émotions. Et elle m'a dit, là, ça n'a rien à voir. Quand on sait que tout ce qui s'est passé est vrai, ça retourne le bide, quoi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc, je ne sais pas si j'avais besoin d'une lecture qui me mette sens dessus dessous, mais il m'en a pas fallu plus pour récupérer l'ouvrage et l'emprunter à mon tour. Donc voilà, la sage-femme d'Auschwitz, c'est Anna. Anna n'est pas juive, elle est polonaise et chrétienne. En revanche, son amie Esther, jeune infirmière, elle, elle est juive. Polonaise aussi, mais juive. Au fil des pages, du temps qui passe et de la guerre qui s'installe en Pologne, nous oscillons entre les deux points de vue, celui d'Anna et celui d'Esther. Dans les premières pages, on comprend très vite le don de l'autrice pour faire passer les émotions. Esther est jeune, elle tombe amoureuse de Philippe. On vit avec elle cet amour naissant, pur, timide aussi. Ils se marient rapidement au début de la guerre et profitent de quelques mois à peine de leur nouvelle vie avant d'être parqués dans le ghetto de Lodz, la ville où ils habitent. Esther comprend que leur vie est en train de basculer. Son petit nuage d'amour s'assombrit de jour en jour. Elle doit quitter le petit appartement qui abritait son amour avec Philippe pour le ghetto. Comme si ce n'était pas assez, on lui annonce qu'elle va devoir vivre avec d'autres personnes, des inconnus. Elle propose tout de suite ses parents et sa jeune sœur, mais ce n'est pas assez. Alors, Philippe propose également ses parents. 7 personnes dans une petite maison qui contient 2 chambres. C'est entendu. Et c'est un soulagement en un sens, pas d'inconnus avec eux. Mais c'est quand même le cœur lourd qu'Esther fait ses bagages. Et si cette scène n'a rien d'exceptionnel en soi, Anna Stuart nous l'a fait ressentir comme si c'était nous qui allions devoir quitter notre maison bien-aimée, notre foyer d'amour, pour une autre vie qu'on suppose déjà beaucoup, beaucoup plus dure. J'avais déjà presque les larmes aux yeux à ce moment-là, hein, du livre, et c'est vraiment que le début. Alors forcément, quand Esther, qui est infirmière, je le rappelle, finit par rejoindre Anna, notre sage-femme héroïne à Auschwitz, moi je ne peux pas vous raconter l'horreur, le froid, la faim, la maladie, les rats. Non, je ne peux pas le faire mieux qu'Anna Stuart le fait. À travers cette adversité, l'autrice fait quand même naître l'espoir. Un espoir infime que peut-être, si ce bébé survit assez longtemps et que sa mère aussi s'en sort, ces deux-là se retrouveront quand tout sera fini. Et si ce n'est pas ce bébé-là, peut-être alors le prochain qui naîtra. Ou le suivant encore. Car il n'est pas permis de naître dans des conditions aussi inhumaines, aussi abominables, s'il n'y a pas d'espoir. Anna tatoue les nourrissons du numéro de leur mère, et c'est cette infime lumière qui leur permet de tenir face aux cauchemars du quotidien. Il n'est pas étonnant que ce livre soit un best-seller, il est époustouflant de vérité. L'autrice a fait un travail remarquable de documentation qu'elle nous laisse entrevoir en fin de récit, mais bien sûr, c'est la façon qu'elle a de distiller toutes ces informations historiques via le regard de ces deux femmes au courage sans faille qui fait toute la différence. On se laisse imprégner de ces destins, immergés par le contexte et débordés par les émotions. La sage-femme d'Auschwitz, un roman inspiré d'une incroyable histoire vraie, durant un événement historique tragique, hein, dont ce pan méconnu vaut la peine d'être lu.
Merci Aurore. Ça me fait penser au film qui est en ce moment sur nos écrans, Une vie, qui parle de cet homme qui a sauvé plus de 1600 enfants juifs. Et c'est des destinées incroyables.
C'est au cinéma ?
Oui, Une vie. Alors, on va complètement changer de registre. On va parler d'un film beaucoup plus léger.
Oui, c'est bien. C'est bien.
Alors, c'est Sur la branche de Marie Garel Weiss. La réalisatrice met en scène Mimi, une jeune trentenaire qui sort de l'hôpital psychiatrique. Elle souffre de bipolarité, d'obsession et d'angoisse. Passionnée de droit, elle veut absolument travailler dans un cabinet d'avocat. Elle rencontre alors un avocat, ou plutôt un ex-avocat à la dérive. En disgrâce professionnelle, il vit en pyjama dans son appartement. Ils sont aussi fêlés l'un que l'autre et ils vont s'aider mutuellement. Et même chercher à aider un petit délinquant qui clame son innocence et qu'ils vont tenter de faire sortir de prison. C'est un film sur les fêlures, les maladies mentales, qui nous fait suivre des personnages décalés, perchés, d'où le titre Sur la branche, et campés par des interprètes incroyables. On a Benoît Poulvorde, qu'on connaît bien, attachant et désopilant, en ermite qui va s'ouvrir progressivement. Et on a le génial Raphaël Quénard, qui aurait tout aussi bien pu avoir le César pour ce rôle que pour celui obtenu avec Chien de la casse. Et surtout la sublime et émouvante Daphné Patakia, pétillante, solaire, qu'on avait déjà remarquée en 2017 dans Jam de Tony Gatliff, puis dans Benedetta et dans la série OVNI, dont j'avais déjà parlé à cette émission. Le personnage de Mimi lui permet de déployer tout son talent pour la loufoquerie touchante. on est dans le burlesque tendre, une comédie douce-amère, pleine d'humour et de finesse, et de rebondissements imprévisibles et poétiques. La réalisatrice joue de l'esprit particulier et sans filtre de Mimi pour créer des situations cocasses et aligner des dialogues savoureux. Et elle offre ainsi une dynamique incomparable à ce film où tout peut arriver. Et elle parvient à parler de ces êtres différents, bancals, avec légèreté et mélancolie, sans lourdeur ni pathos. Et c'est une gageure pour ce thème de la folie et de l'enfermement et une merveilleuse façon de traiter ce sujet de la complexité humaine, la fragilité. Un délicieux moment de drôlerie et de douce fantaisie et un bel hommage à la dinguerie. Eh bien, on arrive déjà au terme de cette émission.
Écoute, on était nous deux, émission intime cette semaine.
Ouais, mais avec des vrais gros coups de cœur que nous vous recommandons. Donc, ce soir, la bibliothèque vous propose une projection à 20h15 du film « Outrage » de Brian De Palma. Mercredi 3 avril à 20h, ce sera la projection d'un film italien, « Bienvenuti al Sud » de Luca Miniero. Du 6 au 30 avril, la bibliothèque exposera les œuvres du photographe Paul Bargada sur les rives de Sunda, des photographies qui célèbrent la diversité et l'authenticité des cultures et des peuples rencontrés lors de son odyssée au Sunda. Samedi 6 avril, après-midi, Philo en bibliothèque, les petits socratiques et le Café Philo de Compiègne, qui commencera par une séance animée par Henri Françoisec à 13h30. Faut-il, et si oui, comment être altruiste? Pour connaître les différentes séances et les différents thèmes traités, vous consulterez notre programme papier ou notre site internet. Et mercredi 10 avril à 17h30, nous vous proposons une rencontre littéraire avec une émission de radio live et en public autour du dernier livre de Muriel Bellier-Kant, « Un instinct de liberté ». Aurore nous a bien parlé de cet auteur déjà. Donc ça devrait être intéressant. Et on aura une table ronde autour des thèmes de la mémoire, de la déportation, du poids, du passé dans nos vies, en direct sur Radio Graphite.
Voilà, mais n'hésitez pas à venir du coup au cloître pour participer à l'émission dans le public, puisque ce sera live et public. Ça sera cool.
Super. Et samedi 13 avril à 17h, nous vous proposons une rencontre avec l'UTC. Comment les techniques transforment-elles nos façons de percevoir? Monsieur Lenay, professeur de philosophie et sciences cognitives, nous présentera des dispositifs techniques nouveaux, d'abord conçus pour les situations de handicap sensoriel. Le prochain rendez-vous culture à la bibliothèque sera le vendredi 24 mai à 18h. Notre émission sera le vendredi 31 mai et nous nous retrouverons avant le 19 avril à 18h pour un rendez-vous série, notre émission spéciale série télé.
Ah, j'allais dire, ça fait loin sinon. Hein.
Ouais, on en a quand même une le mois prochain sur les séries, ne la manquez pas. Et bon week-end à tous.
Absolument.
Merci Aurore.